Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux, réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Astien et je suis accompagné de Fendoel. Bonjour Fendoel.
Salut Astien.
Et nous accueillons aujourd'hui Raphaël Bourrez. Bonjour Raphaël.
Bonjour à vous.
Aujourd'hui Raphaël est là pour nous parler de Don't Panic Game. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ce qu'est Don't Panic Game ?
Don't Panic Game, du coup, c'est une maison d'édition de jeux de société qui a des jeux à licence, par exemple du DC, surtout du manga, des choses comme ça. On va avoir aussi plein de choses dans l'univers du geek, on est tous un peu des geeks en interne, et donc du coup on a envie de faire des jeux qui parlent, qui sont dans notre univers. Moi, dans Don't Panic Game, je suis chef de projet, mais je suis aussi responsable communication. Donc tout ce qui est Facebook, Twitter et compagnie, voilà.
Merci beaucoup.
Pendant tous nos interviews, on pose quelques questions un peu type à nos invités, du coup je vais commencer par te les poser. Pour toi, Cannes, c'est plutôt cinéma ou jeu de société ?
Jeu de société. Évidemment.
C'est plutôt bière ou champagne ?
Cannes, c'est plutôt champagne, mais je suis plutôt bière.
Ouais, au off, c'est plus facile d'avoir de la bière. Hein. C'est plutôt camping ou Martinez ?
Le camping, c'est rigolo.
C'est plutôt off ou dodo ?
Ah, off, non-stop. Le dodo, on fera ça la semaine prochaine.
C'est plutôt salon ou festival ?
Festival, ça bouge, c'est énergique, c'est pas un salon où on s'assoit, il y a des petits canapés. Non non, c'est dynamique, on s'amuse, on s'éclate, on bouge de partout. C'est vraiment presque comme un festival de musique, presque. C'est un même les couloirs, c'est quasiment un pogo pour pouvoir traverser. Donc festival.
J'aime bien l'image.
Tout à fait. Et c'est plutôt pro ou perso ?
C'est pro, mais même les pros font un peu de perso sur le salon.
T'arrives à prendre des moments perso pour toi justement ?
J'essaye. On a toujours ces petites choses qu'on a envie de voir, ce petit truc. On se dit, bon, je me prends 5 minutes, j'ai pas trop le temps, mais je vais voir ça parce que c'est le truc que j'ai envie de voir sur le salon.
Est-ce que t'as pu essayer justement des jeux sur le salon déjà ou pas nécessairement ?
Pas nécessairement. J'ai surtout essayé de discuter avec les gens sur les jeux qui me tapaient dans l'œil. Puis plus tard, j'espère, durant le week-end, essayer d'avoir un peu plus de temps pour vraiment les tester.
En général, on a moins le temps le week-end, tu sais.
Je sais, j'ai de l'espoir, je suis un sempiternel optimiste.
Ok. Donc, Don't Panic Game, c'est, donc tu l'as dit, un éditeur qui se démarque surtout par ses licences fortes, basées sur du manga, des univers qui parlent aux gens du manga, du comics, pas mal de d'art illustré. Est-ce que vous avez également des éditions en propre plutôt que des localisations, je veux dire?
Tout à fait, on a des éditions propres, notamment Escape Quest qui est vraiment un périodique. On sort tous les 3 mois un magazine qui est un escape game en magazine. Tu parles d'art, et on essaye vraiment, par exemple pour Escape Quest, d'avoir vraiment une ligne artistique à chaque fois différente, avec un style. Et aussi, on essaye beaucoup de travailler avec des illustrateurs pour avoir quelque chose de très propre, de très beau, qui soit vraiment agréable à regarder. On a aussi d'autres jeux qui sont vraiment en interne.
Mais Escape Quest, c'est un petit peu comme un style livre dont vous êtes le héros ?
C'est ça et pas vraiment ça. C'est un livre dont vous êtes le héros. On va suivre une aventure d'un personnage. Ça arrive qu'on ait des choix à faire en fonction des situations. Mais c'est aussi un escape. Et donc, du coup, on va avoir des énigmes à résoudre pour pouvoir avancer dans la suite de l'aventure.
D'accord. En fait, le seul livre que je connaisse qui fasse un petit peu ce genre-là, c'est les livres aventures de Gameflow, avec Enquête du Dragon et À la découverte de l'Atlantide. C'est des livres pour les enfants, plutôt tournés pour les enfants. Est-ce que ça s'en rapproche ou pas plus ?
Bah déjà, nous, notre objectif, c'est d'être plus pour des gens un peu plus âgés. Ça va vraiment être des plus grosses réflexions. Vraiment, on est sur des choses plutôt mathématiques, des suites logiques. C'est plus pour un contenu pour adultes que pour enfants déjà.
D'accord. Adulte ou jeune adolescent ?
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ok.
Après, les univers, on essaye de varier aussi pour parler un peu à tout le monde. On essaye de faire aussi des références aux choses qu'on aime bien.
Oui.
Notamment, par exemple, l'Escape Quest numéro 2. On est vraiment dans le monde du jeu vidéo, avec vraiment plein de découvertes d'univers de jeux vidéo différents, des choses qui nous touchent aussi. Et petit cadeau à Proxy Jeux, il y a peut-être quelques tentacules qui se baladent dans Escape Quest 3.
Très bonne référence. Faudrait qu'on aille y jeter un coup d'œil. Est-ce que vous avez des nouveautés présentes justement sur Cannes, sur votre stand ?
Tout à fait. Il y a qui vient de sortir le jeu Rick et Morty Total Recall.
D'accord. Est-ce que c'est lié au dessin animé Rick and Morty ?
Tout à fait.
Graphiquement, on a l'impression que ça ressemble au jeu de cartes Adventure Time. Est-ce que c'est le même illustrateur peut-être ?
Je ne pense pas. Okay. Peut-être que je me fourvoie, c'est possible.
Ça ressemble un petit peu graphiquement en tout cas.
Donc voilà, vraiment basé sur l'épisode de Rick et Morty, du coup Total Recall. Il y a des gens qui se sont incrustés dans la famille de Rick et il va falloir s'en débarrasser. Il y a des parasites évidemment, il faut faire attention à pas éliminer des gens qui sont réels. Ce serait un peu dommage de perdre un membre de la famille.
Mm-hmm.
Du coup, pour se débarrasser de ça, c'est vraiment un principe de communication. Va vraiment, en fait, chacun va jouer une carte face cachée, on va tous révéler en même temps, et les actions vont se faire les unes après les autres. Et c'est vraiment essayer de se coordonner en se disant, bon, toi tu regardes les infos ici, moi je vais tirer, on essaye de voir, on essaye de se coordonner. Donc ça, c'est quand on découvre un peu le jeu, et quand on maîtrise bien, après on peut passer en mode avancé, et dans ce cas-là, on part sur un système à rôle caché, où du coup il y a des parasites et des personnes réelles qui sont les joueurs. Donc, les parasites vont devoir essayer de faire perdre les autres joueurs, etc.
D'accord.
Et au niveau de l'univers, justement, c'est toujours aussi trash que dans Rick and Morty ? Vous avez essayé de garder ça ?
Ça n'avait pas été créé en interne, ça a été créé par un éditeur américain. Pour nous, c'est une localisation. Ils ont essayé de vraiment conserver cette idée de l'univers un peu fun, un peu déjanté de Rick et Morty. On a beaucoup de références, évidemment, à l'épisode. On retrouve tous les personnages qui étaient présents. Notamment, évidemment, Monsieur Boîte à Caca, qui est devenu un peu une autre des icônes de Rick et Morty. Et on va aussi avoir tous les petits trucs un peu bourrins. D'un coup, on va pouvoir tirer, on va pouvoir dégommer tout le monde. Ou des situations un peu plus bizarres, où du coup, Jerry, qui est un petit peu le loser de la famille, est un peu perdu, il comprend jamais rien. Donc du coup, on va mélanger plein d'identités différentes. On essaye de retransmettre un petit peu cette ambiance qu'on a dans l'épisode directement dans le jeu, et ça marche très très bien.
Comme autre jeu éventuellement, autre sortie sur Cannes ?
Sur Cannes, là, qui est sorti là récemment, Seven Ronin.
Mm-hmm. Ouais.
Qui est plus un... Là, on est dans un côté un peu plus... On quitte le fun pour de la stratégie. C'est vraiment un jeu de planification, et c'est un jeu à deux joueurs asymétriques.
D'accord.
Donc il va y avoir un joueur qui va jouer des Ronins. Du coup, il va y avoir 7 Ronins.
Ouais.
Qui sont vraiment très spécifiques, ils ont tous leurs compétences, leurs spécificités. Et de l'autre côté, on va avoir les ninjas qui, eux, par contre, sont très nombreux et vont essayer, en fait, d'envahir un village.
D'accord.
Donc, c'est vraiment essayer de réfléchir sur comment va jouer l'autre et vraiment fonctionner à l'intuition. Se dire, bon, lui, il va jouer comme ça, je le sens, du coup, moi, je vais jouer comme ça.
Il y a du bluff.
On peut faire un peu de bluff en faisant croire qu'on va privilégier une zone particulière et donc faire un petit twist. Surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des combos. Donc, les Ronins vont pouvoir faire des petits combos chacun de leur côté, et les ninjas, quand ils vont contrôler des zones, vont pouvoir faire des effets. Mmh. Et donc, résultat, si un ninja contrôle, par exemple, le passage secret, il va pouvoir faire venir encore plus de ninjas, et il va pouvoir copier cet effet avec un autre lieu, du coup, faire encore venir plus de ninjas. Il y a vraiment plein de synergies comme ça qui peuvent se passer et faire des véritables stratégies à l'intérieur de ce jeu d'intuition.
On est sur un jeu d'une durée de combien de...
On est autour de 30 à 45 minutes.
D'accord, donc un jeu plutôt format moyen, on va dire, et plutôt familial plus, ou plutôt...
On est plus sur du, je dirais, familial plus. C'est pas pour les gros gamers, parce qu'on n'a pas un gros plateau, il n'y a pas plein de choses à gérer, mais malgré tout, il y a plein de petits points de règles avec chaque pouvoir de Ronin qui est différent, chaque lieu qui est différent, qui va être au départ peut-être pour certaines personnes difficile à prendre en main, mais dès qu'on a fait une partie, on se dit ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant je peux changer de rôle, je peux vraiment découvrir les choses et faire vraiment des plans, des nouvelles techniques.
Il y a une vraie différence entre un joueur qui a déjà joué une partie et un joueur qui serait néophyte, finalement.
Tout à fait. Il y a une véritable évolution dans le jeu, ne serait-ce que dans la maîtrise des rôles. Par exemple, quelqu'un qui va jouer plein de fois les Ronins va se dire « Ok, c'est bon, je sais comment ils synergisent. » Par contre, d'un coup, il va passer Ninja et là, ça va être complètement différent. Et du coup, il peut vraiment avoir une nouvelle découverte du jeu.
Ok. Est-ce que tu as encore d'autres sorties? Je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Maiko de Cécile Langlais et Ludovic Maublanc.
Tout à fait. Ça, c'est les jeux qui sont pas encore sortis, qui vont arriver.
Donc, il est essayable actuellement sur votre stand?
Il est essayable actuellement sur le stand. Et en plus, il y a Ludovic Montblanc et Cécile Langlais qui sont présents sur le stand aussi pour présenter et discuter du jeu.
C'est quel type de jeu?
C'est un jeu de mémorisation et d'élégance.
D'élégance, c'est bien, c'est quoi?
En fait, le principe, c'est qu'on va avoir vraiment un jeu de mémorisation, retourner deux tuiles et prendre les tuiles identiques. Mm-hmm. Mais l'élégance réside dans le fait que chaque joueur a une couleur et on ne veut que sa couleur parce que les Maiko, c'est des futurs geishas. Il faut qu'elles soient très belles. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de couleurs qui dénotent, qui soient différentes de leur style. Donc, il va falloir, en fait, avec des techniques, donc soit compléter des lignes, soit céder des personnes présentes dans la maison.
C'est-à-dire que tu vas acquérir les tuiles et tu vas les insérer, enfin, tu vas les placer devant toi, quelque chose comme ça?
Tu as un petit plateau devant toi avec, du coup, les 9 arts de geisha.
Oui.
Quand tu as 2 tuiles identiques, par exemple, je prends 2 kimonos.
Oui.
Donc je maîtrise l'art du kimono, je les place sur ma tuile, sur la zone kimono.
Ouais.
Et ensuite, on va compléter comme ça tous ces arts différents. Quand on complète une ligne d'art, on va pouvoir balayer. Et dans ce cas, quand on balaye, on retire en fait les tuiles qui ne correspondent pas à notre couleur.
D'accord.
Par contre, faut faire attention, on ne peut retirer qu'une tuile sur chaque zone. Et c'est là qu'il va falloir gérer un petit peu sa mémorisation pour ne prendre quand même que des tuiles de sa couleur et minimiser ses techniques de balayage.
C'est un jeu qui fonctionnerait bien avec des enfants plutôt jeunes ou avec des adultes? C'est quoi la cible?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut se jouer avec toute la famille. Parce que les enfants, ils sont très forts pour la mémoire. Mmh. Mais les adultes ont beaucoup plus cet esprit stratégique de gestion de plateau. Donc ça va vraiment se contrebalancer. Chacun aura des méthodes différentes. Et ce qui va donner vraiment des méthodes de jeu complètement différentes.
Donc ça peut avoir l'intérêt de... Enfin, si on est un adulte et qu'on veut y jouer avec un enfant, on va pouvoir tout à fait pouvoir y jouer ensemble. Il y a
bien
quand
sûr.
Même de l'intérêt, ouais, pour...
Oui, bien sûr. On a nos collègues en interne qui jouent avec leurs enfants. Bon, la plupart du temps, ils se font rétamer par leurs enfants, mais bon, hein, c'est comme ça. Hein.
J'ai vu qu'il y avait aussi Game of Dragon Ball Dead, qui est un... Peut-être tu voulais en parler, Astien.
Si tu veux. Donc j'ai vu que c'était David Maurier qui l'illustrait.
Tout à fait, il l'illustre et c'est lui qui a écrit.
Et il est même auteur.
Tout à fait.
D'accord. Et ça a l'air d'être un peu dans le style de Cards Against Humanity, toute la gamme un peu blanc manger coco et tout ça. Tu peux nous en dire un peu plus?
C'est vrai que c'est un peu ça ressemble à Cards Against Humanity, blanc manger coco. En fait, David Maurier a eu Cards Against Humanity et il a fait bon. C'est rigolo, j'aime bien le jeu, j'aime bien l'idée, mais les cartes, ça me parle pas. C'est pas mon univers, c'est pas... Moi, je suis un geek, j'aime les mangas, j'aime les séries, j'aime les films, j'aime la bande dessinée. Et je veux faire mon Card Against Humanity qui me parle, qui est dans mon univers. Et ça a donné, du coup, Game of Dragon Ball Dead, où, du coup, on va avoir Son Goku, Harry Potter, et évidemment, dans leur style un peu sale et trash... qui est l'humour vraiment de David Maurier, un peu à taquiner et un peu à aller sur des sentiers un peu dangereux.
D'accord. Donc du style Card Against Humanity avec vraiment un aspect geek. Je vois qu'il va avoir du Pikachu, du Harry Potter, du Dragon Ball Z, tout ça.
Bah déjà Game of Dragon Ball Dead pour Game of Thrones.
Ouais.
Dragon Ball Z surtout et Walking Dead. Et ouais, du coup, on va aussi avoir des références à la culture française. Du coup, on va avoir du Maminova, on va avoir du Tarzan. Et il va y avoir vraiment aussi cette... vu que Lévi Mourier, c'est aussi quelqu'un qui fait de la BD. On va avoir aussi des références à la BD franco-belge, avec Tintin, les Schtroumpfs, etc.
Comment vous avez pris contact avec lui de ce côté-là? Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui vient du monde du jeu, qui fait des jeux à la base. On voit qu'il sort aussi un autre jeu chez Lumberjack en ce moment. Voilà, est-ce que vous pouvez... expliquer un peu le processus de
en
rencontre.
Fait, En fait, David Mourier, il est en contact à un petit peu avec notre patron qui a travaillé avec lui chez Kazé quand il était responsable d'édition chez Kazé. Ils se connaissaient de là, ils ont gardé le contact, ils s'apprécient pas mal. Et donc du coup, quand lui avait sa proposition de jeu, il est venu nous voir en disant voilà, moi j'ai ça, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous dit? Nous, quand on y a joué, on s'est bien éclaté, on s'est bien marré, donc on s'est dit bah allez, c'est parti. Nous ça nous parle, c'est notre univers, c'est notre style, on s'éclate. Et puis David Mourier, on l'aime bien, c'est vraiment quelqu'un qui est très agréable dans la vie quand on le rencontre, vraiment toujours détente, super cool, on se marre toujours bien avec lui. On s'est dit bah allez, c'est parti.
Ok.
Moi j'avais une question, donc ça vient de sortir ou ça va sortir
sans... Alors c'était censé sortir et on a eu des petits soucis de
alors,
transport.
Alors c'est encore la douane, le transport cette fois-ci.
Alors vraiment là c'est incroyable parce que genre il est arrivé au port d'Anvers le 13, juste quand il arrive, grève des gens à Anvers et ensuite les douanes se disent allez, on va regarder ces cartons-là.
Le conteneur est louche.
Ils ont vu jeu de société 14+, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Enfin, bon.
D'accord. Donc, mais ensuite, c'est censé arriver en boutique à quel moment ?
Censé arriver en boutique
fin du mois.
Fin du mois, tout début mars. Ouais. Et ça arrivera un peu plus tard en librairie, donc Fnac, les Culturas, les choses comme ça, plus vers la mi-mars.
D'accord. D'accord. Juste parce qu'on l'a pas dit, Maiko, il arrive, tu as dit en juin, c'est ça?
Non, fin avril.
Fin avril, d'accord. Donc en fait, tu l'avais pas dit. Et moi, je t'avais pas posé la question.
On voit depuis un moment dans votre gamme et là sur votre stand à Cannes, le jeu DC Comics, le jeu de deck building. Mm-hmm. Ça fait un bon moment que ça tourne et on voit qu'il y a des extensions qui arrivent. Est-ce que c'est un jeu qui fonctionne vu que vous sortez des extensions? Parce qu'en France, de mon cercle de joueurs, je le vois pas forcément sortir. Donc je voulais savoir si ça marchait tant que ça.
DC Deck Building, ça fonctionne. On a régulièrement des gens qui jouent à DC, des gens qui découvrent DC à chaque fois et qui se disent ah mais en fait c'est trop bien, je connaissais pas. Et du coup on a régulièrement des nouvelles personnes qui rentrent un petit peu dans ce cercle DC. Ça fonctionne. Vraiment, on a notre communauté qui nous suit. On voit régulièrement, là, par exemple, sur le stand, on a toujours des joueurs qui nous disent « Ah, mais c'est trop bien, j'ai commencé depuis le début, on y joue tout le temps avec des potes, c'est quand la prochaine extension ?» Et ils ont toute la gamme et ils continuent à jouer régulièrement à DC. Et même nous, en interne, on adore jouer à DC, en fait. C'est vraiment un plaisir d'y jouer, nous, on s'amuse. Mm-hmm. Donc, on continue aussi parce que ça nous fait plaisir d'y jouer.
Vous avez une vraie communauté autour de ce jeu-là.
C'est ça.
Très bien.
Est-ce qu'il y a une extension particulière pour DC Comics qui serait prévue?
D'ailleurs, ça tombe bien que t'en parles parce que oui, il y a.
Je le savais, mais. Juste
pour te... Comme par hasard, hein, bizarre. Il y a en fait une nouvelle boîte de base qui va arriver avec une extension qui arrivera en même temps.
D'accord.
En fait, cette nouvelle boîte de base, en fait, ça va être. Pour les nouvelles personnes, ça va être sur le thème Teen Titan.
Si j'ai déjà acheté la première boîte, est-ce que ça a de l'intérêt, est-ce que j'achète cette nouvelle boîte?
C'est justement là où j'arrive, c'est qu'en fait c'est une nouvelle boîte de base, mais elle va rajouter une nouvelle mécanique.
D'accord.
Qui en fait va être un système de permanent. On va jouer à un deck building, sauf qu'on va aussi avoir des cartes qui vont rester devant nous, et qui vont toujours avoir des effets réguliers. Et évidemment, on va pouvoir aussi se débarrasser des cartes permanentes des adversaires.
D'accord. Mais c'est pas la même boîte de base. Il n'y a pas les mêmes cartes que dans la boîte de base précédente.
Non, parce qu'en plus, vu qu'on est sur le thème Teen Titan, on va vraiment avoir tous les personnages de l'équipe Teen Titan. En plus, ça tombe bien, vu qu'il y a Titan qui est arrivé sur Netflix. On s'est dit que c'était vraiment... Et vraiment, on n'a pas fait exprès.
Ça colle.
Ok. Donc, voilà. Et l'extension, tu m'as dit...
C'est ça. L'extension, c'est Birds of Prey, ouais. Qui est quelque chose qui va aller plus loin sur cette boîte de base. C'est toute une mécanique qui va s'ajouter pour les permanents, qui va être de faire pivoter des cartes. Donc, on va avoir des cartes qui vont être sur le côté, qui vont être à l'envers, et ça va faire des nouveaux effets. Une carte aussi qui va faire un tour complet va pouvoir avoir des effets, etc. Et du coup, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer. Parce qu'on va plus prendre sa main et juste jouer ses cartes et essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec ses cartes. On va d'abord regarder son plateau, dire mm-hmm. Bon, qu'est-ce que j'ai comme carte, qu'est-ce que je peux faire synergiser, etc. Et ensuite, après coup, jouer ces cartes et se dire, bon, maintenant, je peux faire pivoter cette carte-là. Du coup, ça fait le tour complet. J'ai un effet en plus. C'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin que cette nouvelle boîte de base. Des gens qui sont déjà habitués au deck building, qui disent, bon, je veux un deck building, mais je veux un deck building plus.
Ça le complexifie un peu. Ça peut être pas mal d'y attirer justement un nouveau public. Vous surfez du coup sur la vague aussi des sorties DC Comics Cinematic Universe avec Birds of Prey qui arrive bientôt au cinéma.
Tout à fait. Et encore une fois, nous, on a un planning qui est plus fait tôt. Et quand on a appris toutes ces choses-là, bon, on s'est dit, bon, on a de la chance, c'est bien, ça arrive au bon moment.
Tant mieux, ouais.
On espère clair. Que ça continue comme ça, on est sous une bonne étoile.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Raphaël? Une sortie dont on n'aurait pas parlé, quelque chose qui tient à cœur?
On a des petites sorties ici dont on n'a pas parlé. D'ailleurs, il y a des prototypes qui sont sur le stand. C'est Above, qui est un jeu vraiment à deux joueurs ou quatre joueurs. Plus vraiment dans la réflexion style échec.
Jeu abstrait, donc?
Un peu abstrait. On a essayé quand même de mettre un univers qui est celui des dieux de l'Olympe.
D'accord.
Qui vont essayer de monter en haut de l'Olympe. Mais sinon, c'est plus un jeu abstrait. Qui est vraiment, on va essayer de prévoir les coups des autres, etc. Et on a aussi un autre prototype là.
Est-ce qu'il a un nom, ce premier prototype?
Above.
Above. Et un deuxième proto, donc, tu disais?
Oui, qui est Cowboy Bebop, le deck building. On essaye de faire une mécanique de deck building avec en plus de du déplacement dans l'espace, dans l'univers de Cowboy Bebop. Donc avec vraiment ces thèmes de chasseurs de primes, d'aller chercher des personnes sur les planètes, d'aller les combattre et puis pouvoir récupérer de la réputation auprès de tous les chasseurs de primes.
Et c'est un prototype qui était déjà dans ce thème-là, ou l'idée c'était de le placer ensuite, de le changer éventuellement d'univers et de le replacer dans ce thème-là? Ouais, non, je sais pas.
C'est surtout, en fait, c'est les auteurs qui aiment bien l'univers Cowboy Bebop.
Il était déjà, les auteurs, t'avais déjà proposé ce thème-là pour leur jeu, ouais?
C'est ça, ouais.
D'accord. Et vous avez pu donc obtenir la licence Cowboy Bebop. Comment est-ce que ça se passe pour obtenir des licences internationales? Parce que Cowboy Bebop, c'est assez populaire, hein, je pense.
Ben oui, c'est assez populaire, même à l'international, notamment, par exemple. C'est surprenant un peu, mais les Mexicains sont ultra fans de Cowboy Bebop.
D'accord.
Un contrat comme ça de licence, c'est un peu de la confiance. Faut pouvoir montrer qu'on sait faire de la licence, qu'on sait travailler avec des gens à licence.
Mm-hmm.
Montrer qu'on est capable de fonctionner avec les accords qui sont très différents, c'est particulier. Parce qu'il faut pas pouvoir modifier une image, par exemple. Un personnage, il faut pas qu'on le change, qu'on lui mette dans un décor qui ne lui correspond pas. Il y a une identité artistique qui est très forte et il faut respecter cette identité artistique. Et donc, ça se présente par le passif. Donc, notamment, nous, DC, Tokyo Ghoul, Attaque des Titans, on montre qu'on peut maîtriser le manga dans le jeu de société.
Mm-hmm.
Et ensuite, c'est beaucoup de retours entre, du coup, nous et notre avancée sur tout le design.
Uh-huh.
Et ensuite, du coup, ceux qui ont la licence, en disant, est-ce que ça vous convient? Est-ce que si on fait ces modifs-là, ça vous va? Et ensuite, du coup, c'est un peu, on s'échange la balle et on discute pour voir si tout ce qui fait le jeu, entre que ce soit le gameplay, mais c'est surtout le design, comment ça se présente, si eux, ça leur convient.
D'accord. En fait, moi, je me disais peut-être naïvement que comme c'est des licences, si je dis pas de bêtises, qui sont d'origine japonaise, mm-hmm. ça va peut-être être difficile de les atteindre. C'est peut-être aussi pour des questions de culture. La communication peut être plus compliquée. Je sais pas du tout, hein, honnêtement.
Les Japonais, surtout pour des licences de manga, ils ont vraiment quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Ils ont vraiment quelqu'un qui gère les licences.
Ils ont un référent qui gère les licences, oui.
Tout à fait. Après, par contre, ce qui est très particulier, c'est que les Japonais ont vraiment un système de travail qui est très différent du nôtre, dans le sens où parfois, pour nous, ils vont sembler un peu lents. On veut des choses très rapides, des retours très vite. Nous, on est vraiment dans « je t'envoie un mail, j'ai une réponse le lendemain », etc. Eux, ils fonctionnent vraiment avec leur journée, ils font un projet, l'autre journée, ils font un projet, et ils avancent lentement, mais sûrement. Et comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur, ils sont très carrés. Mais ils avancent vraiment à une vitesse qui parfois peut être déstabilisante pour des Français. Donc des fois c'est un peu frustrant, mais on prend sur soi et on se dit dans tous les cas ça sera nickel. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils nous donnent, c'est très bien.
Ok.
Bon, c'est intéressant en tout cas. et Cowboy Bebop, est-ce que tu aurais une date, enfin, en tout cas pour Cowboy Bebop et Above, est-ce que tu aurais des dates pour à peu près quand est-ce que ça serait édité? Est-ce que c'est des jeux pour l'année prochaine pour Essen?
Cowboy Bebop, ce serait fin 2019, début 2020. Above, on essaye de le sortir plus tôt que ça, on n'a pas encore de date précise. On a déjà le plateau qui est figé, la boîte qui est figée. Là, on est en train de voir pour les petites figurines qui incarnent les dieux. On fait des tests en impression 3D, etc. On a déjà bien avancé. Après, ça sert à rien qu'on se mouille sur une date en vous disant que ça va sortir à ce moment-là, parce qu'il peut arriver n'importe quoi.
Bien sûr. Non,
notamment, ensuite, par exemple,
des problèmes à la douane.
Tout à fait.
C'était pour avoir un ordre d'idée s'il fallait l'attendre pour cette année ou pour l'année prochaine.
Ce sera sûrement pour cette année.
D'accord. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Raphaël ?
On est en train de travailler aussi sur une autre licence qui arrivera par contre plus en 2020. Et on essaye encore de voir en financement. On n'est pas encore sûr de comment ça va se passer. Mais on travaille sur un...
Ça veut dire financement participatif, ce que tu sous-entends ?
Peut-être.
D'accord.
On est à l'étude, mais ce serait pour un jeu Ghost in the Shell.
D'accord.
Ok.
Qui serait un jeu coopératif pour 3 joueurs, enfin pour 4 joueurs, et un 5e joueur qui sera du coup l'homme qui tire les ficelles dans l'ombre et qui va contrôler du coup la partie du coup des méchants.
D'accord,
dans la symétrique un contre tous quoi.
C'est ça.
Très bien. Bah on attend ça, donc ça c'est pour le futur lointain.
2020,
d'accord, très bien.
J'ai aussi des petites voix qui me murmurent aussi que, en fait, on est en train de travailler en accord avec quelqu'un pour faire quelque chose de comme autour de Vampire la Mascarade, donc un jeu Legacy qui va être en financement participatif.
Toujours un jeu de plateau ou un jeu de cartes, pas un jeu de rôle du tout?
Non, c'est vraiment un jeu de plateau Legacy où, en fait, on va retracer toute l'histoire de la Mascarade pour Vampire la Mascarade.
Ok, donc il y a un jeu de rôle connu également.
Tout à fait, on en a discuté là, notamment sur le salon avec les gens d'Arcane Asylum, du coup.
Qu'on reçoit demain. Ok, bah, c'est très intéressant tout ça. Bah, merci beaucoup, Raphaël, en tout cas, pour toutes ces sorties intéressantes.
Merci à vous de me recevoir, c'est très gentil.
Chère auditrice, cher auditeur, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.